Il est 16h à Paris, 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'Ukraine presse la Russie de répondre au projet de cesser le feu. L'Ukraine qui a dit oui à la proposition américaine d'un arrêt des combats de 30 jours. La balle est dans le camp de la Russie qui fait durer l'attente. Correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin à suivre. La guerre commerciale lancée par Donald Trump prend une dimension mondiale avec l'entrée en vigueur aujourd'hui des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. L'Europe et la Chine ont promis de riposter. Le Canada a lui décrété de nouveaux droits de douane applicables à des produits américains. Dans ce journal également, les résultats des élections législatives au Groenland, marqués par la victoire d'un parti de centre-droit et par la poussée des indépendantistes. Y aura-t-il un cessez-le-feu après plus de 3 ans de guerre en Ukraine? La réponse de la Russie donc se fait attendre. Hier en Arabie Saoudite, la délégation ukrainienne a approuvé la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours assortie de négociations immédiates lancées avec la Russie. Reste à savoir quelle sera la position de Moscou. Les autorités russes n'excluent rien, mais elles attendent d'être informées par leurs partenaires américains des détails et des modalités de mise en œuvre du cessez-le-feu. Correspondance de Jean-Didier Revoin.
Moscou donne donc l'impression de vouloir gagner du temps en continuant à chasser les troupes ukrainiennes de son territoire dans la région frontalière de Koursk. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'était toujours opposé à un cessez-le-feu temporaire. Il souhaite en effet parvenir à un arrêt complet des combats sur la base des territoires conquis par les forces russes et conclure ce qu'il appelle une paix à long terme fondée sur le respect des intérêts légitimes de tous les habitants et de tous les peuples qui vivent dans la région. Pour le président russe, une trêve offrirait un répit permettant aux troupes ukrainiennes de se regrouper et de se réarmer pour, à terme, reprendre le conflit. C'est pour cela que le porte-parole du Kremlin a précisé qu'il était trop tôt pour que Moscou se prononce sur la proposition d'une trêve de 30 jours. Pour Dmitri Peskov, les émissaires américains Marco Rubio et Mike Waltz vont informer les autorités russes du contenu précis et des détails de l'accord. Des discussions devraient avoir lieu dans les heures qui viennent. Et Dmitri Peskov n'exclut pas que Vladimir Poutine et Donald Trump puissent se parler directement et même très rapidement si la situation devait l'exiger. Ce n'est qu'ensuite qu'on saura si Donald Trump est parvenu à infléchir les positions de Vladimir Poutine. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
Et après la réunion d'hier entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite, Varsovie a indiqué aujourd'hui que les livraisons d'aide militaire à l'Ukraine via la Pologne donc a averti que ces livraisons avaient repris. Sachez aussi que le capitaine du porte-conteneur qui a percuté un pétrolier lundi en mer du Nord est un Russe de 59 ans, arrêté par la police britannique. Il doit être traduit en justice pour la mort présumée d'un membre d'équipage dans cette collision. Ce mercredi 12 mars marque une nouvelle étape dans la guerre commerciale que Donald Trump a engagée avec le reste du monde. Toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis se voient dorénavant appliquer une surtaxe de 25%. Mauvaise nouvelle de plus pour l'acier européen déjà en pleine crise. L'Union européenne, de même que la Chine, ont promis de riposter. De son côté, le Canada a décrété en rétorsion de nouveaux droits applicables à certains produits américains. Une opération à grande échelle de l'armée pakistanaise est en cours après l'attaque des séparatistes baloutches contre un train. C'était hier dans le sud-ouest du pays, à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, en pleine zone montagneuse. Le train transportait plus de 450 passagers. Pour l'heure, les autorités pakistanaises indiquent que 190 otages ont été libérés et 30 assaillants tués. Les précisions sur place de Sonia Ghezali.
Des hélicoptères survolent régulièrement la gare de Quetta. La sécurité est en alerte maximale. La zone est quadrillée par des militaires alors qu'une foule de proches de passagers du Jafar Express sont rassemblés sur le parvis de l'aérogare. Mujib, journaliste pour la presse locale, est sur place depuis ce matin.
Les médias et même les membres des familles des otages ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment principal de la gare. Les familles sont très inquiètes et ont beaucoup de mal à obtenir des informations sur leurs proches.
Alors qu'aucune information ne filtre, la tension grandit chez les proches des otages. La voie ferrée est le seul moyen d'acheminement des forces de sécurité et des équipes de secours vers le lieu de l'attaque.
Il y a quelque temps, un camion militaire rempli de cercueils vides a été amenés à la gare, puis déplacés vers l'arrière de la gare et des cercueils vides y ont été déchargés. Nous avons également pu constater qu'un certain nombre de cercueils étaient conservés à l'intérieur de la gare depuis ce matin.
Du renfort militaire est également arrivé sur place. Des soldats et des paramilitaires lourdement armés, plusieurs munis de lance-roquettes. Ils ont tous embarqué à bord d'un train qui a pris la direction du tunnel de Machkaf à 150 km de Quetta, là où a lieu la prise d'otages. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
L'avion qui transporte l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, vers la Cour pénale internationale. Cet avion doit se poser dans l'après-midi à Rotterdam, aux Pays-Bas. Rodrigo Duterte a été arrêté hier à son arrivée à l'aéroport de Manille, à la demande de la CPI. La Cour qui enquête sur la guerre contre la drogue livrée sous sa présidence. Pendant ce temps, ses avocats ont déposé une requête pour demander son rapatriement à Manille. Au Groenland, les élections législatives organisées hier ont été remportées par l'opposition. Le vainqueur est un parti de centre-droit favorable à une transition lente vers l'indépendance. Il se dit prêt à discuter avec tous les autres partis en vue de former une coalition. Quant au parti pro-indépendance, il fait une poussée historique pour se placer en deuxième position à ces élections. Correspondance d'Otilia Ferré.
Signe peut-être d'un effet Trump, la participation a été élevée à plus de 70% et les résultats de ces élections démontrent bien une opposition aux ambitions du président américain. Pas vraiment de surprise ici, les Groenlandais ne veulent pas devenir américains, à l'image de Tida et Kira, habitantes de Nuuk, la capitale.
Les gens n'en ont rien à foutre, on ne peut pas acheter les gens. Tout ça nous fait bien rire, mais nous ne sommes pas des objets. On ne veut pas être doublement colonisés, on veut être nous-mêmes et le moment est venu.
Jamais des élections au Groenland n'avaient connu un tel retentissement international. Les partis de la coalition jusqu'alors au pouvoir enregistrent de leur côté un net recul en se plaçant en troisième et quatrième position du scrutin. Aucun des partis n'a obtenu la majorité sur les 31 sièges au Parlement. Il va donc falloir former une alliance. Une alliance qui sera en charge d'esquisser les modalités et un calendrier menant à l'indépendance que souhaite l'immense majorité des 57 000 habitants du Groenland. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
Au lendemain de la chute du gouvernement portugais, le chef de l'État reçoit aujourd'hui pour consultation les partis représentés au Parlement. Il devrait convoquer en fin de semaine des élections anticipées. C'est le scénario le plus probable. Empêtré dans une polémique sur un possible conflit d'intérêts, le Premier ministre Luis Montenegro, arrivé au pouvoir il y a un an, mais sans majorité au Parlement, a été contraint hier de démissionner. En France, une enquête de l'ONG Médecins du Monde révèle des entraves à la domiciliation des personnes précaires. Avoir une boîte aux lettres est le point de départ de nombreuses démarches du quotidien, parmi lesquelles ouvrir un compte en banque et bénéficier des prestations sociales. Sans adresse administrative, l'accès aux droits est souvent impossible. La domiciliation est garantie légalement, mais selon l'enquête de Médecins du Monde, ce droit est souvent bafoué. Enquête d'Amélie Beaucourt.
Pour accéder à une domiciliation administrative, il faut s'adresser à un CCAS, un centre communal d'action sociale. Seule condition, avoir un lien d'attachement à la ville.
Le fait de travailler sur la commune, le fait d'avoir un enfant scolarisé sur la commune, le fait de vivre à la rue, en squat, en bidonville sur la commune.
Des critères déclaratifs et volontairement larges, car l'objectif est d'aider les personnes n'ayant pas de domicile stable. Sauf que, selon Pauline Leliard, certains CCAS les hiérarchisent. En Ile-de-France, par exemple, vivre à la rue est paradoxalement un motif de refus.
C'est le CCAS qui va effectuer un contrôle sur la légalité ou non de l'habitat, si c'est un squat, si c'est un bidonville. Le critère illégal ou non de l'habitat, quel que soit d'ailleurs le mode d'habitat, n'a pas à rentrer en ligne de compte quand on fait une demande de domiciliation administrative.
Autre exemple, bénéficier d'un suivi médico-social ne suffit pas aux yeux de certaines communes.
Ça, c'est extrêmement grave. Ça a des conséquences très concrètes sur l'accès aux soins des personnes qui, du coup, sans adresse, par exemple, ne vont pas pouvoir déposer une demande d'aide médicale d'État, ne vont pas pouvoir demander l'ouverture de droits à la sécurité sociale.
En Ile-de-France, selon l'enquête de Médecins du Monde, 40% des structures refusent aussi de domicilier les personnes en situation irrégulière, contrairement à ce que prévoit le droit français.
C'était Amélie Beaucourt en football. Au programme aujourd'hui, la suite et la fin du huitième de finale en Ligue des Champions. Hier, le Paris Saint-Germain a fait tomber les Reds de Liverpool à Anfield Road. Ce soir, un autre club français est engagé. C'est Lille, opposé au Borussia Dortmund, finaliste sortant de la compétition. Auteur d'un bon match nul, un partout au match aller en Allemagne. Le LOSC est en ballottage légèrement favorable. Coup d'envoi de ce huitième, 18h45. Enfin, en cyclisme, le mauvais temps, en l'occurrence la grêle, a eu raison de l'étape du jour. jours de Paris-Nice, course qui a dû être neutralisée en raison de la grêle, donc à 45 km de l'arrivée. 16h10, il est grand temps de retrouver Nathalie Amar pour le Pont des Arts. Nathalie, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et à tout à l'heure.